Radio Grand Ciel présente Histoire d'en savoir plus, une émission réalisée grâce à la participation technique et musicale de Claude Casal. Au micro, Christiane Blanc. C'est le 27 août dernier que Cédric Boué a pris ses fonctions de sous-préfet à Nogent-le-Rotrou. Nous l'avions reçu à son arrivée dans nos studios de Nogent-le-Rotrou et il avait évoqué son parcours et ses projets pour l'arrondissement de Nogent-le-Rotrou. Nous sommes heureux de le recevoir à nouveau pour évoquer ses impressions, mais aussi ses réalisations et ses projets. Monsieur le sous-préfet, bonjour.
Bonjour Christiane Blain.
Alors, 3 mois, vous êtes arrivé à Nogent-le-Rotrou et vous succédiez à Christian Védélago. Alors, tout d'abord, quelles sont vos impressions après l'état des lieux? Il y avait beaucoup de dossiers en cours, j'imagine. Alors, comment, où en êtes-vous? Je pense peut-être tout d'abord au dossier sur la fusion des communes, sur l'intercommunalité. Alors, peut-être tout d'abord, vos impressions après ces 3 mois. Comment vous apparaît Nogent-le-Rotrou et l'arrondissement?
Écoutez, les premières impressions sont confirmées, pour vous le dire très simplement, c'est-à-dire que c'est un arrondissement qui est sympathique, qui m'a fait bon accueil, et je vous remercie de m'avoir invité à nouveau d'ailleurs à votre micro. C'est un arrondissement qui possède de très nombreux atouts, qui pour certains sont largement mis en valeur, d'autres sont en cours de déploiement. Il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de bénévolence, de volontarisme, et mon travail, c'est d'essayer de faciliter tout ce qui va contribuer à l'image positive et au confort que nous avons, nous, à habiter dans cet arrondissement du Perche eurélien.
Très bien. Oui, vous êtes venu avec votre épouse et vos enfants qui ont pu trouver une scolarité, ça s'est bien passé.
Tout le monde est inscrit dans les écoles de Nogent-le-Rotrou pour ce qui concerne mes enfants, mon épouse travaille, donc tout va très bien et l'accueil est donc un accueil positif au plan familial également, vous avez raison.
Eh bien c'est parfait. Alors maintenant revenons à la fusion des communes, parce que cette intercommunalité, les Nogentais, on a du mal à comprendre parce qu'il y a des noms de communes qui ont changé, alors il faudrait nous expliquer un peu tout ça, ce qui est un peu compliqué finalement.
Effectivement, c'est compliqué. En tout cas, c'est compliqué en première lecture. Je vous avais annoncé lorsque j'étais venu vous rencontrer la première fois que nous avions plusieurs projets de fusion de communes.
Exactement.
À l'époque, qui avaient pour ambition de voir le jour au 1er janvier 2019. Mmh. Aujourd'hui, cette date-là est passée, donc on peut compter les projets qui sont arrivés à l'objectif. Nous avons 3 communes nouvelles sur l'arrondissement de Nogent-le-Rotrou et un 4e projet qui, lui, n'a pas pu voir le jour en raison de difficultés lors de l'instruction de la procédure et lors des consultations des collectivités concernées. C'est notamment un projet qui était interdépartemental.
Vous pouvez nous dire de quel projet?
Alors, on était sur un projet de commune nouvelle sur le secteur de la Bazoche-Goué, oui. Et qui n'a pas pu aboutir, faute de temps sans doute, pour réunir la convergence des volontés entre les 2 départements concernés.
Et vous le reprendrez, ce dossier?
Alors, c'est un dossier que nous accompagnerons, s'agissant des services de l'État, s'il voit à nouveau le jour à l'issue des élections municipales en 2020. Oui. Aujourd'hui, il n'y a plus de possibilité de créer de commune nouvelle sur le courant de l'année 2019, justement en raison de ce renouvellement général des assemblées locales qui se profile.
Oui,
on peut pas modifier, on peut pas modifier l'organisation territoriale si près d'une élection. 3 communes nouvelles donc qui ont vu le jour sur l'arrondissement de Nogent-le-Rotrou. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont les élus locaux qui ont choisi, avec leur conseil municipal, souvent sur l'initiative et la proposition des maires, de se réunir ensemble dans un nouveau concept qui est celui de la commune nouvelle, qui est en fait une commune de plein exercice et qui réunit 1, 2, 3 communes. Autre que la commune qui va faire objet d'une commune dite de centralité, qui va accueillir notamment les services de la municipalité, de la mairie.
Ça veut dire qu'il y aura une seule mairie?
Il y a une seule mairie dans une commune nouvelle, mais par contre il peut y avoir, et c'est le cas dans nos 3 secteurs, des mairies dites déléguées, avec des communes déléguées, qui ont conservé le nom des anciennes communes. Et c'est ça qui peut paraître parfois perturbant, mais en réalité, c'est le gage de la conservation de l'identité des communes, de façon à ce qu'elles ne soient pas totalement effacées par le projet de commune nouvelle. C'est ainsi que nous avons une commune nouvelle sur ce qu'on appelle la commune d'Arcis. Je crois que vous avez reçu son maire récemment.
Voilà, mais c'est vrai que Arcis, personne ne connaît, enfin, à part les vieux Nogentais qui savent un peu qu'il y a une rivière, etc. Mais sinon, Arcis, c'est un nouveau mot.
C'est un nouveau mot. Et c'est pour ça qu'il est important de se référer aux appellations historiques des communes qui composent la commune nouvelle d'Arcis, qui sont les trois communes de Margon, de Coudressou et de Brunel, et qui, en l'occurrence, ont conservé en qualité de communes déléguées ce nom-là, et ont conservé dans les locaux des mairies historiques un service d'accueil pour les populations. Autrement dit, le nom de la commune historique est toujours présent, il y a toujours un service d'accueil dans les anciens locaux de la mairie, même s'il n'y a plus qu'un seul maire en titre de la commune nouvelle, il est associé à un conseil municipal qui est formé d'adjoints au maire, très classiquement, mais aussi de maires des communes déléguées. En l'occurrence, le maire de la commune d'Arcis a à ses côtés les anciens maires des communes de Brunel, l'ancien maire de la commune de Coudressou, qui sont les maires délégués de ces portions du territoire de la commune nouvelle d'Arcis, et qui ont des pouvoirs propres à ce titre-là.
Ce sont en quelque sorte des adjoints.
Absolument, ce sont en quelque sorte des adjoints territoriaux pour le territoire de leur ancienne commune.
Mais alors, Arcis figurera simplement sur les... Sur quoi ?
Alors, Arcis est le nom officiel de la commune nouvelle. Oui. Donc, Arcis est le nom juridique qui est utilisé par l'ensemble des services de l'État, notamment. Mais je crois que ce qui va permettre à nos concitoyens de s'approprier, finalement, le terme d'Arcis, c'est le jour où la signalisation routière sera elle-même modifiée.
Oui.
Et on aura une manifestation visuelle de cette création de la commune nouvelle, chose qui, pour des raisons très prosaïques de mise en place de cette signalétique, n'est pas encore le cas partout. Mais dans les communes déléguées, on aura commune nouvelle d'Arcis et en dessous, commune déléguée de Coudressou, par exemple.
Alors, pour le courrier, il faudra aussi préciser qu'il s'agit d'Arcis ou simplement Coudressou suffira ?
Il est mieux de prévoir un adressage à la commune d'Arcis et une adresse au sein de la commune déléguée de Coudressou. Ça évitera aux facteurs de perdre un petit peu de temps pour retrouver quelle est la bonne
adresse. Il faut d'abord dire Arcis.
Oui, c'est le nom de la nouvelle commune.
C'est ça. Donc, et alors, cette commune... Alors, il y a quand même 52 communes, c'est ça, dans cet arrondissement. Est-ce que ça change alors ? Est-ce que ces trois communes-là deviennent une seule commune ?
Ces trois communes-là deviennent une seule commune de plein exercice, donc le nombre de communes de l'arrondissement diminue. Je citais trois communes nouvelles, il y a celle d'Arcis dont nous venons de parler, nous avons aussi la commune dite de Saint-Igny.
Alors expliquez-nous, parce que Saint-Igny, on ne connaît pas du tout là.
Qui a regroupé Frétigny et Saint-Denis-d'Autou.
Ah oui.
Donc c'est une commune nouvelle composée de deux communes historiques. Et puis nous avons Saint-Igny.
Donc c'est le début de
contraction.
Non, tandis qu'Arcis, c'était déjà...
La liberté de choix revient en intégralité aux élus locaux. C'est eux qui sont les mieux à même de trouver quel est le meilleur nom pour la commune qu'ils ont décidé de créer. Parfois, ce sont des débats extrêmement longs.
J'imagine.
Voire même inextricables, mais on arrive toujours à sortir un nom qui figure dans l'arrêté préfectoral de création de la commune nouvelle. Et puis la dernière, alors c'est celle-là qui peut paraître surprenante.
Alors, combien d'habitants à Saint-Igny ?
Alors, vous me posez une colle.
Excusez-moi.
On doit être à 300 habitants environ.
Ouais. Peut-être. J'imagine que ça aussi, ça compte dans le fait qu'il y ait des communes un peu différentes les unes des autres.
Le cas de Saint-Igny est un petit peu à part, puisque ce sont deux petites communes rurales qui se regroupent. Le cas d'Arcis, que nous connaissons avec la commune de Margon, qui a une zone urbaine importante, puisqu'elle est imbriquée dans celle de Nogent-le-Rotrou, est un petit peu différent. Et il en va de même pour la commune d'Autun-du-Perche, qui est une commune qui a gardé son nom historique. Mais la commune d'Autun-du-Perche est, depuis le 1er janvier 2019, une commune nouvelle, puisqu'elle a intégré dans le projet la commune de Soisé, qui est devenue une commune déléguée au sein de la commune nouvelle d'Autun-du-Perche. Là aussi, on est sur une commune qui assure des charges de centralité intermédiaire, ce qui n'est pas le cas de la commune nouvelle de Saint-Igny.
Donc là, il n'y a pas eu de changement pour cette troisième commune.
Pas de changement de nom, mais on a bien une commune nouvelle avec une commune déléguée.
Très bien. Est-ce que vous avez aussi des priorités pour d'autres communes ?
Alors, il n'y a pas de priorité pour d'autres communes. D'abord, pour une raison très prosaïque que j'évoquais tout à l'heure, on ne peut plus, dans l'attente des élections municipales, créer de communes nouvelles. Ça n'empêche pas de réfléchir.
Oui, c'est ça.
Il est difficile de réfléchir avec des élus qui sont en train de terminer leur mandat municipal, et on ne peut pas préjuger, bien sûr, du résultat des urnes. Oui. Donc les réflexions recommenceront en réalité à compter de 2020, sans doute, de façon plus sérieuse. Et l'État accompagnera tous les élus, tous les maires qui souhaiteront s'engager dans cette voie. Oui. Nous ne serons pas, du côté de la préfecture et des sous-préfectures, prescripteurs de propositions de fusion. À ce stade, ce sont les communes qui doivent s'emparer de ce sujet, nous faire des propositions et nous aidons le projet à voir le jour. Mais nous ne sommes pas nous-mêmes chargés de définir quelles seront les communes nouvelles de demain.
Bon, ben merci, ça c'était un renseignement très important. Alors maintenant, j'en arrive aux collectivités locales. Comment les soutenez-vous ?
Alors, le soutien du sous-préfet et des services de la sous-préfecture s'exerce par de très nombreux aspects. Ce sont un soutien juridique, ce sont des soutiens qui peuvent être de nature financière, je vais y revenir dans un instant.
Exemple, oui.
Alors, très simplement, les collectivités, quelles qu'elles soient, c'est-à-dire les communes, les intercommunalités, les regroupements de communes, portent toutes des projets qui sont des projets d'investissement, dont certains sont des projets importants à la fois par ce qu'ils apportent aux communes et à leur population, mais aussi importants sur leur surface financière. Nous savons que la maîtrise d'ouvrage public est quelque chose qui coûte cher et qui en général rapporte peu. Ce ne sont que rarement des investissements productifs. Donc nous les aidons avec des fonds spécialisés qui sont des subventions d'investissement accordées par l'État aux collectivités locales.
Ça c'est bien aussi qu'on le sache.
On parle tout le temps de la baisse des dotations de l'État, ce qui n'est plus vrai depuis 2 ans puisque les dotations de l'État sont stabilisées. Mais ce sont des dotations qui sont toujours citées, qui sont des dotations de fonctionnement. Nous avons aussi des subventions d'investissement, c'est celles que j'évoquais à l'instant, qui sont toutes destinées à soutenir un projet local avec une part non négligeable de cofinancement public accordé par l'État. Au minimum 20%, ça peut aller jusqu'à 60% dans certains cas. Et nous avons des sommes importantes qui sont dévolues à cet effet. Nous avons près de 12 millions d'euros annuels de crédits d'investissement à distribuer sur l'ensemble des communes et intercommunalités du département de Raynouard. Pour vous donner une maille plus précise pour l'arrondissement de Nogent-le-Rotrou, 2 millions d'euros de DETR, dotation d'équipement des territoires ruraux, accordée en 2018,
ah oui,
et quasiment une somme identique au titre de la DSIL, c'est-à-dire la dotation de soutien à l'investissement local, qui là aussi vient financer notamment des projets en zone rurale, dans le cadre des contrats de ruralité, et en particulier du contrat de ruralité du Perche.
Bah écoutez, merci, parce que ça c'est une information que vraiment, peut-être beaucoup de nos gentils ne connaissent pas. Alors justement, Nogent, comment analysez-vous la politique de la ville de Nogent-le-Rotrou ?
Alors la politique de la ville, attention à ne pas se tromper dans la signification de ce terme. La politique de la ville ne vient pas s'intéresser à la politique de la municipalité, conduite par la municipalité de Nogent. La politique de la ville, c'est le terme qui est choisi pour désigner les actions particulières qui sont faites en faveur des quartiers dits prioritaires au titre de la politique de la ville, c'est-à-dire les quartiers en zone urbaine qui, par leur identité sociale, leur particularité au titre du logement, du cadre de vie, nécessitent une attention particulière et un effort particulier de la collectivité publique pour pouvoir revenir sur un pied d'égalité avec d'autres quartiers qui sont des quartiers plus classiques, plus urbains, plus résidentiels.
Alors, vous pensez à quel quartier en particulier ?
Nous avons sur Nogent-le-Rotrou le quartier dit des Gauchetières,
oui,
qui est le quartier en politique de la ville de Nogent-le-Rotrou.
Oui. Alors, j'imagine aussi, sur le plan économique, vous avez dû visiter les grandes entreprises. Quel a été votre sentiment ?
Alors, il y a beaucoup d'entreprises sur l'arrondissement qui ont des corps, enfin qui ont des structurations, qui ont des histoires économiques et qui ont des domaines d'intervention extrêmement divers.
Oui.
Donc je n'ai pas la prétention d'avoir vu tout le champ des entreprises de Nogent-le-Rotrou. Et d'ailleurs, je suis allé très récemment, pour vous donner un exemple, sur la commune de Mossé, à proximité de La Loupe,
oui,
sur l'entreprise Cartor, qui est une, oui, entreprise qui est finalement assez peu connue sur le bassin économique de Nogent, qui est une entreprise qui fabrique avec un savoir-faire très particulier, il y a très peu de concurrents en réalité pour Cartor, des timbres de collection, des timbres de valeur sur des commandes particulières. On est loin du timbre,
oui,
poste,
oui,
classique,
oui,
et qui est une entreprise très intéressante à voir fonctionner, qui a des problématiques qu'il est important que je connaisse. Et ce sont ce genre d'entreprises un petit peu emblématiques du territoire que moi je souhaite rencontrer. Et pour vous donner un deuxième exemple, je vais me rendre dans quelques jours à Céphare, qui est la SCOP de Nogent-le-Rotrou, à la sortie le long de la rocade.
Très bien. Mais si vous le voulez, nous allons marquer une pause musicale. Je suis toujours avec monsieur le sous-préfet de Nogent-le-Rotrou et nous évoquons son travail depuis ces 8 mois d'exercice à Nogent. Alors, dans une première partie, nous avons vu comment il avait travaillé à Nogent-le-Rotrou. Et aussi maintenant, j'aimerais que vous nous disiez comment vous avez réussi à couvrir le territoire en 4G, parce que ça, nos gens de tout l'arrondissement, eh bien, font très attention à cela. Alors, rassurez-les, j'espère.
Je vais m'y employer, mais je ne vais pas vous garantir que nous avons couvert tout le département en infrastructure de 4G mobile. Ouais. L'objectif, il est effectivement que nous obtenions une bonne couverture, c'est-à-dire une qualité de couverture à la fois en termes de nature de la couverture, c'est-à-dire de la 4G, qui est différente de la 3G, c'est ce qui nous permet la 4G de surfer sur les applicatifs mobiles, internet, dans de bonnes conditions.
Oui, et ça,
tout le monde a ce besoin maintenant, absolument. Et donc, c'est un service presque public et quasiment devenu indispensable. Et c'est pour ça qu'il y a un vrai travail qui est fait. Alors, je tiens à préciser que nous le faisons en partenariat avec le conseil départemental, qui lui-même essaye de travailler sur cet objectif avec un dispositif qui lui est propre. Moi, je vais vous évoquer le dispositif de l'État, qui avait été mis en place au niveau national l'année dernière, et qui, de façon schématique, est le suivant. L'État a réattribué les fréquences de téléphonie mobile aux 4 opérateurs historiques que nous connaissons tous, je ne vais pas les citer, et il a réattribué ces fréquences à titre gracieux, mais en échange, c'est-à-dire qu'il a renoncé à 3 milliards d'euros de recettes fiscales, en échange, il a imposé aux opérateurs d'équiper le territoire et notamment les zones peu denses, c'est-à-dire les zones rurales très concrètement, de dispositifs de téléphonie mobile 4G, de façon à combler les trous que nous avons sur la couverture de bonne qualité en 4G. Alors, le choix des implantations des équipements de téléphonie mobile 4G n'est pas décidé par les opérateurs. Il est fait par le niveau local, et en l'occurrence, il est fait par ce qu'on appelle un comité de projet que je co-anime en ma qualité de sous-préfet référent numérique et téléphonie pour l'ensemble du département.
Que vous co-animez, c'est-à-dire
et que je co-anime avec le représentant du conseil départemental, de façon à ce que nous puissions bien articuler nos différentes politiques publiques sur ce sujet. Et nous avons la capacité de choisir, de prescrire en fait, des zones à couvrir sur lesquelles les opérateurs n'ont pas d'autre choix que de venir implanter un équipement de téléphonie mobile, c'est-à-dire très concrètement un pylône, une antenne, qui va permettre de couvrir avec une couverture de qualité le point, la zone que nous lui aurons désignée. Et il le fait à 100% sur ses fonds propres. Autrement dit, il n'y a pas d'argent public qui va venir soutenir cette politique. Et c'est justement parce que nous avons renoncé au niveau de l'État à encaisser les recettes d'occupation des fréquences, des redevances de fréquences, que nous imposons aux opérateurs de prendre en charge sur leur seul budget les équipements que nous leur prescrivons de conduire. Alors, je disais, on n'est pas encore à l'objectif, parce qu'il y a beaucoup de zones, malheureusement, d'Eure-et-Loire qui sont mal couvertes. Et donc, il y a énormément de points sur lesquels nous souhaitons que ces équipements soient implantés. Nous progressons. Nous avons choisi 6 communes en 2018. Il y en a une qui parlera. Alors voilà, qui sont Boncourt, Cogny-Molitard, Fontaine-lès-Ribou, Frazé, dans l'arrondissement de Nogent-le-Rotrou, la commune de Lanneray et la commune de Saint-Lucien. Sur ces 6 communes, les 4 opérateurs ont l'obligation de créer l'infrastructure que j'évoquais tout à l'heure. Et je pense que la commune de Frazé est l'une des plus avancées. Et j'ai bon espoir que nous puissions inaugurer ce nouvel équipement dans les prochains mois et en tout état de cause avant la fin de l'année 2019.
Oui, là, vous faites des heureux, là.
Je l'espère. Nous ne nous arrêtons pas là, puisque nous avons prescrit aussi une première série de communes à couvrir pour l'année 2019. Les décisions ministérielles qui valident ces choix qui sont faits par le comité départemental que je co-anime sont en train d'être publiées au journal officiel. Et nous aurons très rapidement une obligation finalement des opérateurs de mettre en place les équipements de téléphonie 4G concernés. Je vous citerai simplement l'une des communes, parce que c'est aussi une commune de l'arrondissement de Nogent-le-Rotrou, c'est la commune de Coudray-au-Perche.
Ah oui. Donc ça c'est vraiment un point très très important, parce que tout le monde a envie d'avoir la 4G.
C'est une politique publique majeure d'aménagement du territoire qui est portée par l'État.
Et justement, les petits villages, ça va leur faire du bien.
Ça va faire du bien à tout le monde, c'est-à-dire que ça va faire du bien aux habitants de ces petits villages, mais dans tous ces petits villages, il y a souvent un embryon, voire même une réelle activité économique.
Et oui.
Des gens qui sont en télétravail, qui travaillent à leur domicile. Nous avons des petits artisans, des entrepreneurs locaux qui ont, aussi modestes soient-elles, leur entreprise dans le village dans lequel ils résident et qui ont besoin, pour avoir une relation avec leurs fournisseurs, avec leurs clients, une relation de bonne qualité, d'avoir une ressource numérique et téléphonique de qualité.
Oui, ça c'est une très bonne chose. Alors, en tant que représentant de l'État, vous assurez la sécurité et la garantie de l'ordre public. Donc, vous veillez à la politique et à la protection des citoyens. Alors, quelle est la politique de prévention quant à la délinquance, d'abord ? Est-ce que, d'abord, il y a beaucoup de délinquance dans l'arrondissement ?
Alors, je pense que je ne surprendrai personne en vous disant que l'arrondissement de Nogent-le-Rotrou n'est pas réputé pour être un arrondissement qui souffre d'un phénomène de délinquance très préoccupant. C'était le premier sentiment que j'avais, je vous l'avais d'ailleurs dit quand nous nous étions vus. La pratique qui est la mienne au quotidien, aux côtés des forces de gendarmerie notamment, vient confirmer le fait que nous ne sommes pas sur un endroit ici, sur l'arrondissement du Perche, extrêmement préoccupant. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe pas de choses, et si nous avons une évolution de la délinquance qui est globalement maîtrisée, il y a néanmoins quelques tendances qui sont des tendances préoccupantes et qui doivent nous amener à réfléchir et à réagir pour essayer de faire davantage de prévention et, quand ça s'impose, davantage de répression. Je pense notamment à l'exemple des cambriolages. Nous sommes à un arrondissement sur lequel les cambriolages restent très nombreux. Souvent des cambriolages flash, si vous me permettez l'expression, c'est-à-dire que les malfaiteurs rentrent dans la maison, ils passent 10 minutes et s'en vont. Mais c'est un cambriolage, c'est traumatisant pour les personnes qui en sont l'objet, et ce sont des choses qui sont certainement des choses qu'on pourrait éviter dès l'instant que les mesures, les réflexes de protection des domiciles sont un peu plus importants qu'ils ne le sont dans nos zones rurales où finalement il y a une confiance générale qui règne. Il ne faut pas laisser ses fenêtres ouvertes, y compris au premier étage quand on s'absente, par exemple.
Oui.
Il faut penser à fermer son portail d'entrée quand on s'en va. Vous voyez, ces petites choses qui pourraient éviter beaucoup de cambriolages. Donc la gendarmerie mène une action particulière, propose ce qu'on appelle les protocoles de participation citoyenne, qui sont en vigueur maintenant dans quelques communes de l'arrondissement, et qui permettent de créer une vigilance citoyenne, et qui est de nature à rendre le territoire plus difficile, enfin moins vulnérable et plus difficilement atteignable par toutes ces équipes qui font de la cambriole. Il y a d'autres problématiques, je pense à la sécurité routière par exemple, sur lequel nous avons là encore des comportements qui sont des comportements dangereux et qui peuvent être à l'origine d'accidents graves, voire mortels. C'est arrivé l'année dernière, mon objectif c'est que ça n'arrive pas cette année sur l'arrondissement de Nogent-le-Rotrou.
Et vous-même, vous assistez à ces rondes, si je puis dire?
Oui, alors j'ai même, pour tout vous dire, prescrit hier à la compagnie de gendarmerie un contrôle routier d'assez grande envergure, qui est un contrôle coordonné que nous avons fait sur différentes communes de l'arrondissement, Nogent-le-Rotrou, Arcis, Vichères, nous étions à Lugny aussi à la sortie du village.
Alors de quelle heure à quelle heure?
On était sur une deuxième partie d'après-midi, c'est-à-dire les horaires de sortie de bureau et au sortie d'école de façon générale, là où les gens sont souvent pressés et trop pressés de rentrer chez eux.
Mais sortie d'école, c'était très bien parce qu'il faut faire attention aux enfants.
Il faut faire attention aux enfants, il faut faire attention aux deux roues motorisées qui commencent de nouveau à fréquenter le territoire puisque le temps redevient clément. Et le fait est que nous avons constaté sur l'ensemble du département de Eure-et-Loire une accidentologie qui est en hausse en 2019 par rapport à ce qu'elle était en 2018.
Et je crois que c'est pour la France entière.
Et effectivement, cela vient corroborer des tendances nationales. Mmh. Alors c'est préoccupant, ça s'explique en partie par la dégradation d'un parc de radars très présent sur le territoire, mais qui a été très touché aussi par les contestations sociales récentes. Donc ça a sans doute développé une forme de sentiment d'impunité qu'il nous faut réussir à circonscrire.
Là, vous avez enlevé des permis.
Alors là, bah écoutez, hier nous avons effectivement avec les gendarmes, et j'étais présent avec eux sur l'ensemble de ce contrôle au bord de la route, nous avons eu un certain nombre de procédures qui ont été relevées, certaines ont pu se traduire effectivement par des sanctions sur le permis de conduire, nous avions aussi des défauts de carte grise, nous avions je crois un défaut d'assurance, enfin des choses très simples mais qui sont répréhensibles parce que tout le monde doit respecter la réglementation applicable.
Alors, également, on parle des gilets jaunes et à nos gens, eh bien, il y en a eu aussi. Est-ce que vous les avez reçus ?
Alors, les gilets jaunes sont présents à nos gens. Je crois que ça n'a échappé à aucun de vos auditeurs. Ils sont présents, et c'est sans doute la particularité nogentaise, ils sont présents depuis le début de ce mouvement qui a commencé le 17 novembre dernier. Mais ils sont présents sous différentes formes. Aujourd'hui, les gilets jaunes sont toujours... actifs, ils ne sont plus sur les ronds-points parce que nous leur avons demandé de quitter les ronds-points dans le courant de l'hiver, ce qu'ils ont fait, mais ils sont présents sur des marches qui sont organisées le samedi matin, comme vous le savez. Je les ai rencontrés à plusieurs reprises, et quand je dis je les ai rencontrés, en réalité il n'y a pas de chef et de représentant officiel de ces gilets jaunes, donc j'ai rencontré des gilets jaunes, je n'irai pas beaucoup plus loin, que ce soit en sous-préfecture, ou sur le terrain, parfois à leur demande et parfois à la mienne, de façon à manifester toute l'attention que nous portons dans les services de l'État à l'évolution de ce mouvement.
Et c'est ainsi qu'il y a une voiture de police pour être devant eux, c'est ça ?
Alors il y a une voiture de gendarmerie, en l'occurrence, qui est présente lors des manifestations de voie publique, comme c'est le cas pour toutes les manifestations de voie publique d'une certaine envergure, pour assurer à la fois la bonne circulation des automobilistes, pour assurer la sécurité des manifestants, qui sont dans un droit de manifester, puisqu'ils se déclarent chaque semaine en préfecture et en mairie.
Oui, alors aussi très important, vous expérimentez la présence d'agents de l'État dans les maisons de service au public. Qu'en est-il ?
Alors les maisons de service au public, ce sont des lieux qui sont des lieux qui offrent un bouquet de services pour les concitoyens le plus en proximité de leur lieu d'habitation. Ouais, nous en avons trois sur l'arrondissement de Nogent. Une maison de service public à La Loupe, une autre est située à Thiron-Gardet et la troisième est à Autons-du-Perche. Et ce sont des maisons de service au public qui offrent un accès facilité aux ressources du Pôle emploi, aux ressources de la CAF par exemple, de la MSA,
la
Caisse d'allocation familiale,
oui.
Avec des personnels qui sont les référents des MSAP, qui sont formés pour aider les administrés à s'y retrouver dans leurs démarches, et notamment quand ce sont des démarches numériques. Madame la préfète, Sophie Broca, a souhaité que les agents de l'État, et singulièrement les agents de la préfecture et des sous-préfectures, puissent participer à cette relation nouvelle que nous avons, nous institutions, État, avec nos concitoyens. Et nous expérimentons depuis 2 mois, c'est assez récent, la présence d'un fonctionnaire dans les MSAP pour aider sur des problématiques qui nous sont propres, et je pense notamment à tout ce qui relève des titres de type permis de conduire, ou certificat d'immatriculation, la carte grise.
Oui.
C'est une expérimentation qui débute. Moi, je pense que nous en tirerons bientôt les premiers enseignements.
Oui.
Mais je crois que dans certaines MSAP, ça fonctionne très bien. Et pour parler de ce qui concerne la sous-préfecture de Nogent, nous avons effectivement l'une de nos collaboratrices qui est présente le jeudi, une fois par mois, sur la MSAP de La Loupe.
Donc ça, c'est très bien. Peut-être vous pouvez vous redire cela une dernière fois. Donc à La Loupe, il y a donc...
À La Loupe, nous avons une collaboratrice de la sous-préfecture de Nogent qui est là pour accueillir les usagers qui le souhaitent à proximité de leur lieu de vie et pour les renseigner, pour les guider sur leur démarche.
Monsieur le sous-préfet, un grand merci. Et je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pourrez nous retrouver sur notre site internet www.radiograndciel.fr. Merci à vous.
Merci, madame Berger.